Chapitre 3. On frappe et on sonne. Il fallait voir Helena Landless. Ses joues dorées étaient animées par l'air frais du matin. C'était bien en ce moment cette belle fille des tropiques dont il est tant parlé dans les livres et que l'on voit si peu dans la réalité. Elle jouissait de cette matinée dans le jardin suspendu du lieutenant Tartar. La jeune fille prenait l'air dans la portion justement de ce jardin arrangé par les soins de M. Tartar devant les fenêtres de son frère. Le pauvre garçon, poursuivi par tant de chagrins qu'il n'avait pas mérités et ne pouvant plus supporter la solitude, était venu lire dans la chambre d'Héléna qui donne sur la plantation aérienne, et sa sœur trouvait en ce moment un double plaisir à respirer le parfum des fleurs que la fumée de 500 000 cheminées ne gâtait pas trop à cette heure. Elle écoutait le babillage des moineaux qui surpassaient M. Tartar même par leur insouciance des hauteurs où ils se perchaient tout joyeux. Elle se taisait de peur de troubler la lecture de son frère bien-aimé, si heureuse de le voir près de lui. M. Tartar n'était pas loin, sa tête frisée, ses yeux bleus et son visage brun dépassaient tout juste les feuilles qui couronnaient le mur de séparation, tandis que le reste de son corps était caché par ce mur. « Bonjour, mademoiselle Landless, dit-il. Voulez-vous m'accorder un instant d'entretien en vous rapprochant de moi ou me permettre de vous rejoindre ?» La jeune fille est tressaillie au moment où l'apparition frappa ses regards, où la voix de M. Tartar arriva à ses oreilles. Qu'y avait-il donc d'inaccoutumé dans la voix ordinairement si franche et si insouciante du marin ? Une voix sonore qui n'était point faite pour les espaces si restreints, qui demandait plutôt les vastes océans et les brises de mer pour lui faire écho, et qui tremblait en cet instant, du moins Helena se l'imagina. Elle était bien sûre que l'esprit du lieutenant était troublé, ses yeux bleus aussi étaient moins clairs, moins brillants, moins joyeux que d'habitude, quelques soucis inattendus semblaient être venus les obscurcir. Il était presque incroyable qu'Helena ait vu et entendu tant de choses en quelques secondes, si l'on songe surtout qu'il n'y a, entre elle et le jeune homme, aucune de ces sympathies qui réunissent les amoureux et qui aiguisent en eux le don de l'observation. Mais on connaît cette faculté de seconde vue que possèdent ceux qui sont nés dans le mystérieux Orient, c'est cette faculté qui agit en ce moment en Helena, comme elle agira plus tard dans d'autres circonstances. Elle a vu, entendu, remarqué tout, avec un léger frisson de crainte, avant d'avoir répondu au salut du jeune homme. « Bonjour, vous m'avez fait peur en apparaissant si subitement. Si vous pouvez franchir le mur, parfaitement, à condition d'être très, très prudent. Vous avez quelque chose à me dire? Est-ce sérieux? Serait-il arrivé du nouveau ?» Peut-être M. Tartar n'entend-il pas tout ce qu'elle lui dit, car la permission n'a pas été plus tôt accordée, qu'il en profite à la hâte, et même en s'exposant, beaucoup plus qu'il n'était nécessaire. Il se plante debout sur la crête du mur, comme si c'était le haut d'un mât. Il saute, glisse, retombe, et arrive auprès d'Héléna, en se félicitant d'échapper à l'embarras, de se présenter à l'aide de ces abominations de la terre ferme, qu'on appelle un escalier et une porte. Il en est aussi heureux qu'au temps où il était mousse, lorsqu'on lui permettait de descendre des huniers la tête en bas, au moyen des étés, au lieu de se servir des enfléchures. « Ah, j'ai cru que vous alliez tomber !»« Moi ? Non, merci, il n'y a pas de danger, sans quoi je n'aurais pas essayé devant une dame. Votre frère est-il à portée de nous entendre ?»« Non, il lit dans ma chambre. Si vous voulez lui parler, je puis l'appeler. » « Non, je vous en prie. Je vous ai demandé la permission de me présenter et vous me l'avez accordée. J'ai encore autre chose à vous demander. Voulez-vous être assez bonne pour vous imaginer un moment que je suis un ami ou tout au moins un bon garçon si l'autre expression vous paraît trop forte? Alors je vous ferai une petite confidence sans que votre frère soit présent et vous ne la lui répéterez pas. » Neville et moi sommes jumeaux, monsieur Tartar. Je crois que vous le savez, et nous n'avons jamais eu l'habitude d'avoir des secrets l'un pour l'autre. » Il y avait une certaine nuance d'effroi dans la voix de la jeune fille, et ses manières pouvaient faire supposer au marin qu'elle éprouvait envers lui une certaine défiance, ce qui n'était pas. Elle serait morte cependant plutôt que d'avouer ce qu'elle ressentait en ce moment. Elle soupçonnait à demi qu'elle s'était trompée jusqu'alors et que l'habile grimpeur allait essayer de franchir un précipice où il devait certainement tomber. En d'autres termes, elle avait peur de le voir détruire une amitié à laquelle elle tenait en essayant d'y mêler un amour impossible. Heureusement, elle ne le pensa pas longtemps. Les premières paroles du jeune homme dissipèrent ses craintes pour en éveiller d'autres d'une nature bien différente. « Je vous en prie, mademoiselle Landless, ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous demanderai pas de cacher à votre frère rien de ce qui pourrait lui être agréable. Mais ne pourriez-vous pas, en certains cas, lui cacher, au moins pour un temps, les choses qui ne sauraient que lui faire de la peine ?»« Si je ne le pourrais pas, monsieur Tartare, je serais donc indigne du nom de sœur. Je vous en prie, pardonnez-moi ce que je vous ai dit d'abord. » Et si vous faites allusion à des choses qui intéressent mon pauvre Neville persécuté, vous avez deviné juste et du premier coup, mademoiselle Landless, interrompt Tartare. Je désire vous parler des affaires de votre frère sur certains points dont je ne crois pas sage de l'entretenir. Puis-je continuer avec l'espoir que vous ne lui en redirez rien, à moins d'en avoir obtenu la permission de M. Grewgious ou de moi ? « Vous voulez que je vous fasse cette promesse avant d'avoir confiance en moi ? Eh bien, je me fie à vous, monsieur Tartare, et je vous le promets. Merci pour la confiance que vous voulez bien me montrer. Ne soyez pas effrayé de ce que je vais vous dire. Ce qui me paraît menaçant n'est, je l'espère, que le commencement d'un temps meilleur. Votre frère est poursuivi, cependant, de plus près que nous ne le savions et d'une façon plus méchante et plus dangereuse. » Ah ! Ce cri s'échappe du cœur d'Héléna Landless. La brave jeune fille cède rarement à l'émotion ou à la peur, mais ses cris viennent naturellement aux lèvres, même des plus héroïques, quand la frayeur ou la douleur sont soudaines. Hier soir, continue le marin, votre frère et vous avez quitté la maison pendant une demi-heure, ou un peu plus, vous devez vous en souvenir. Oui, il était à peu près 10 heures et j'avais persuadé à Neville, qui craint toujours, vous le savez, de sortir en plein jour, de m'accompagner dans une courte promenade. Nous n'avons parcouru que les rues voisines. Nous sommes restés dehors une demi-heure. Qu'a-t-il pu arriver pendant ce temps ? Il est arrivé beaucoup de choses pendant cette demi-heure, mademoiselle Landless. J'ai vu une fois un magnifique vaisseau coupé en deux en bien moins de temps encore, et le tiers de son équipage tué ou blessé. Ce qui est arrivé hier au soir n'est pas un fait de guerre, bien que ce soit peut-être aussi atroce. Mais je ne dois pas perdre de temps, car votre frère peut venir nous rejoindre et nous embarrasser beaucoup. Je traversais donc la cour, et je suppose que vous ne m'avez vu ni l'un ni l'autre au moment où vous sortiez. À propos, aviez-vous fermé la porte de votre appartement qui donne sur le vestibule ? Non ? Nous devions rester si peu de temps dehors, et avec, comment est-ce qu'on l'appelle ? Ah, la vedette ! Avec la vedette si près de nous, nous ne l'avons pas cru nécessaire. Permettez-moi, alors, mademoiselle Landless, de vous conseiller de fermer votre porte. Si l'on en vient à pénétrer chez nous, il faut que nous puissions prouver l'effraction. Très bien, nous fermerons à l'avenir. Mais dites-moi, je vous en prie. Ce que vous avez perdu à ne pas fermer la porte pour cette fois ? Rien du tout, probablement. Peut-être même y avez-vous gagné. Je continue. J'appellerai cela filer mon nœud si j'étais à bord. Je montai donc à ma chambre après votre départ et, y trouvant l'air un peu chaud, je fis retraite vers le jardin où je me plaçai dans l'endroit qui touche le mur. Alors il me vint une idée. Et les marins comme moi n'ont pas l'habitude d'examiner leurs idées d'aussi près que les philosophes. Je pensais que je ne trouverais nulle part autant de brise qu'en me mettant à cheval sur le mur, où je pourrais m'imaginer être grimpé sur les bastingages pendant un quart de nuit sous les tropiques. Je m'imagine maintenant que j'ai été envoyé là par mon bon génie. Dans tous les cas, je trouvais au bout de quelques minutes une bonne raison pour y rester. J'étais placé de façon à voir la chambre de votre frère et je remarquai que la lumière y avait été éteinte. Tout à coup, je la vis briller. Je vous dis que si j'ai manqué aux convenances en regardant par la fenêtre, J'y ai peut-être été poussé par ce que les marins appellent le bon petit chérubin qui veille là-haut pour prendre soin du pauvre Jack. La lumière brilla donc, et je supposais que votre frère avait abandonné la promenade et venait de rentrer. Mais alors, je vis un visage bien différent de celui de votre frère, le visage de l'homme qui le poursuit. « Ciel, John Jasper, êtes-vous sûr que vous ne vous êtes pas trompé, monsieur Tartare ?» Helena ne put s'empêcher de pousser cette exclamation dans le premier moment de surprise. « Non, je ne me suis pas trompé, répondit le marin. C'était bien lui. Et quand je l'eus reconnu, vous pensez bien que je le surveillais de près. Son visage avait une expression diabolique de triomphe, comme s'il découvrait enfin quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Cependant, deux fois au moins pendant les 5 minutes qu'il resta là, sous mes yeux, j'ai vu ce même visage convulsionné par des spasmes douloureux. Le dernier m'a semblé même terriblement violent, ce fut comme une crise mortelle. C'était bien lui, oui, c'était John Jasper, répéta la jeune fille se parlant à elle-même. Elle confirmait en même temps l'opinion de M. Tartare. Naturellement, c'était lui. Nous autres, qui voguons d'un monde à l'autre, nous sommes obligés de reconnaître un phare ou un cap très rapidement et souvent sans l'avoir vu. Nous reconnaissons les gens de la même façon et presque d'instinct. Je vous ai dit que j'avais étudié une fois déjà les spasmes de son visage. Je ne savais pas ce qui les causait, je le sais à présent. Helena Landless sentit les battements de son brave cœur presque arrêtés par le terrible intérêt qu'excitaient en elle les paroles du marin. Elle ne put exprimer ses sensations que par un soupir, et M. Tartare continua. « Je ne suis pourtant pas bien éclairé, dit-il. Je ne savais ce que faisait là Jasper, je ne le sais pas encore. Je le voyais penché sur la table et fouillant au milieu des papiers dont elle était couverte, puis ouvrant un ou deux tiroirs. Je vais vous dire ce que, suivant moi, il devait faire. C'était quelque chose de direct contre la liberté de votre frère, peut-être contre sa vie. Il cherchait un objet lui appartenant et qu'il put placer de telle façon que l'objet eut l'air d'être tombé au moment où le crime s'est commis. Vous savez de quel crime je veux parler. Peut-être encore voulait-il placer là un autre objet ayant appartenu à la victime et qui parut être en possession de votre frère. Mais qu'avez-vous, mademoiselle Landless? Vous pâlissez? Vous trouvez-vous mal? Je suis fâchée de vous faire de la peine. « Non, ce n'est rien. Continuez, je vous en prie, » répond Helena en faisant un violent effort. Elle est pâle, en effet, et semble près de s'évanouir. Quelque chose dans le récit du marin l'a vivement affectée. Est-il bien possible, est-ce que cet enthousiasme soudain qui porta Edwin Drood à dire un soir comme il peindrait la sœur de Neville était mutuel? Est-ce que cette brillante et fraîche jeune fille, qui n'a aucune raison pour porter le deuil du jeune homme au cœur franc, si soudainement disparu, se regarde comme une veuve par amour de lui? Les paroles du marin ont-elles été droites à son cœur, qu'elles lui aient fait perdre ce calme si gracieux, mais ordinairement si inébranlable, et laissé aussi faible que les créatures les plus craintives? Monsieur Tartare continua, comme on le lui demandait, après une pause un peu plus longue que les circonstances ne semblaient l'exiger pourtant. « Je suis bien aise de voir que vous allez mieux, mademoiselle Landless, quoique cela ne me soit pas d'un grand secours. J'ai à vous faire une très pénible révélation. Il s'agit de 2 crimes au moins, commis par moi, et peut-être davantage. Je suis sûr de 2, une attaque suivie de coups, plus un vol probablement. Que voulez-vous dire, monsieur Tartare ? S'écria la jeune fille. Peut-être se demandait-elle tout bas si la hauteur du jardin suspendu ou quelque autre influence subtile n'avait pas réellement fait perdre la tête au marin. « Je vous en prie, excusez la façon bizarre dont je vous présente mon récit, » répondit-il. « Je veux dire simplement que j'ai dû, à ce moment, perdre tout empire sur moi-même, car je me suis élancé dans la chambre par la fenêtre, oubliant ainsi tout le respect dû à la propriété d'autrui. Je crains bien de m'être jeté sur l'intrus, et vous pouvez, avec raison, vous demander quel droit j'avais d'en agir ainsi. Je suis sûr même de l'avoir jeté par terre. Je crois que j'ai essayé de l'arrêter, avec la vague idée de le livrer à la police comme voleur. Mais la chose n'était pas facile à accomplir, et dans la lutte, tandis que nous étions tous deux par terre, il a réussi à glisser entre mes doigts et à s'enfuir. Je l'ai suivi jusqu'au bas de l'escalier, puis je suis revenu dans la chambre pour voir si nous n'avions pas brisé quelques meubles et dans l'intention d'y attendre votre retour. Mais à la réflexion, je pensais qu'il valait mieux ne rien dire d'abord à votre frère si vous vouliez bien consentir à lui cacher tout ceci pour un temps. Je quittai donc l'appartement de la même façon que j'y étais entré, en emportant seulement ceci que j'ai trouvé sur le parquet. Puis je vous demandai si cet objet vous appartient, à vous ou à votre frère, ou bien si, comme je le suppose, notre charmante amie l'a laissé tomber dans sa lutte avec moi. Mademoiselle Landless reçoit, sans montrer plus d'émotion que n'en exige un sujet si romanesque, l'objet que lui offre le marin et qu'elle ne connaît pas. Elle ne l'a même jamais vu et n'en a jamais entendu parler. C'est une bague de diamants et de rubis mélangés, figurant une rose, dont le travail est aussi beau que les pierres en sont pures. Elle prend l'anneau des mains de M. Tartat et ses yeux brillent de cette admiration que les diamants ont la faculté d'exciter dans les prunelles des femmes. C'est là, dit-on, que les génies ont pris les éclairs dont ils ont formé les yeux de ces pierres sans pareille. Elle glisse le diamant à l'un de ses doigts, comme font toujours ces êtres charmants, dès qu'un bijou de prix se trouve entre leurs mains, puis elle le retire et le rend à M. Tartat en disant « Non, il n'appartient ni à mon frère ni à moi. Et vous devez avoir deviné juste, il sera tombé de la main de votre antagoniste. Mais il est bien beau, n'est-ce pas ?» Elle n'en dit pas davantage, elle ne connaît pas ce bijou. Les yeux de la jeune fille élevés dans cet orient magique ont beau être perçants, ils ne peuvent lire dans le passé l'histoire de cette bague. Ils peuvent encore au moins lire son histoire future et deviner que peut-être elle sera l'avenir de deux existences humaines. « Oui, il est très beau, mais qu'en dois-je faire ?» dit M. Tartat. Réflexion très naturelle d'un homme devenu possesseur si soudain d'une pareille valeur qui ne lui appartient pas et dont il ne peut se servir. Helena Landless pensait à autre chose en ce moment. « Quelle étrange histoire vous m'avez contée, M. Tartat, » dit-elle. « Et quel mystère que tout ceci !»« Mon pauvre frère !» Oui, grâce à votre bonté et à votre courage, je crois que nous apercevons un nouveau danger avant qu'il ne puisse l'atteindre, et vous nous aiderez à le sauver sans qu'il se doute de ceux qui le menacent. La figure brune de M. Tartat est tout illuminée par la joie qu'il éprouve de ce compliment. Son secours, demandé d'une si douce façon, est accordé à l'instant. Ses yeux bleus ont leur vieille expression d'audace à la pensée de nouvelles aventures. Il prononce les premiers mots de la promesse demandée. Mais le voici brusquement interrompu, la promesse devait être faite, mais d'une toute autre façon. M. Grugieuse venait d'apparaître debout dans l'embrasure de la fenêtre, si anguleux dans l'air clair du matin que son visage et toute sa personne semblaient formés d'une réunion de pignons sculptés qui se projette sur l'étroite rue placée derrière Holborn Bars. Il était venu pour voir Neville Landless. Ne l'ayant pas trouvé dans sa chambre, il avait aperçu M. Tartat et Helena en conversation dans le jardin suspendu. Il leur adressa la parole d'un ton aussi aimable qu'aurait pu le faire un personnage aux angles arrondis. « Entre nous, jeunes gens, dit-il, l'heure est un peu matinale pour caqueter, surtout quand on songe que cet exercice demande ordinairement de longues promenades dans les sentiers couverts. J'espère que vous allez bien tous les deux. Puis-je demander si M. Tartat arrive du haut de la grande hune ou s'il vient de remonter de la cale ?»« Je viens de là-haut, M. Grugieuse, répondit le jeune homme en riant. Dois-je cueillir un géranium pour mettre à votre boutonnière ?» Peut-être Mademoiselle Landless en doublerait-elle le prix si elle voulait bien le placer elle-même. Certainement, j'accepterais un géranium si vous voulez être assez bonne pour me le donner. Pourquoi un vieux fou anguleux ne jouirait-il pas de tous les privilèges de sa possession? Où donc est votre frère, Mademoiselle Landless? Helena se baissa pour cueillir la fleur favorite de M. Grugieuse. Et Neville Landless, attiré par ce bruit de voix et par son nom plusieurs fois répété, s'avança derrière M. Grugieuse. À ce moment, M. Tartat, embarrassé par la bague et trouvant quelqu'un à consulter, s'approcha de la fenêtre, tenant le bijou au bout de l'un de ses doigts et le montrant au vieil avocat. « Voyez quel trésor j'ai trouvé, dit-il. N'est-ce pas ainsi que vous appelez cela, vous autres hommes de loi ? Un trésor, il m'est tombé dans les mains hier soir. Voilà une fleur de notre genre, digne d'être portée, sinon à la boutonnière, du moins au doigt. » Alors il vit M. Grouchieux tressaillir, se reculer, puis se pencher brusquement en avant. Il sentit que l'anguleux vieillard, très sincère en ce moment, et lui arrachait la bague en poussant un cri suivi de quelques mots inarticulés. Il entendit Neville derrière l'avocat répéter ce cri avec des variations également surprenantes. Il s'aperçut vaguement qu'Héléna, placée au bord du jardin suspendu et subitement effrayée par toutes ces exclamations passionnées, était en danger de faire un plongeon par-dessus le toit. Son œil vif et sa forte main prévinrent ce dernier péril et, se retournant ensuite, il comprit enfin les paroles de M. Grouchieux. « Bon Dieu, M. Tartar, savez-vous ce que vous possédez là ? C'est la bague d'Edwin Drood. » Je la vis en sa possession 2 jours à peine avant sa disparition, et sans aucun doute, il l'avait sur lui. Je la connais depuis plus de 20 ans. Comment est-elle entre vos mains, jeune homme ? Vite, pas d'équivoque, parlez !»